Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez-vous même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose? Ou qu'une idole soit quelque chose? Non. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Au chapitre suivant de la même épître, et au verset 20, « Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale, car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim et l'autre s'enivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous. Et enfin, un dernier verset dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur.
Nous rendons grâce à notre Dieu de ce qu'il veut occuper nos cœurs et nos pensées au sujet de l'Assemblée et de ses desseins envers elle, pour sa gloire et pour la gloire de son Fils. Dieu a sur la terre son Assemblée, et cette Assemblée est chère à son cœur. C'est l'Assemblée qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils, comme nous le trouvons en Actes chapitre 20. Et cette Assemblée est aussi chère au cœur du Seigneur Jésus. Il l'a aimée et s'est livré lui-même pour elle. Cette assemblée, nous le rappelons, est formée de tous les croyants depuis la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur. Tous les croyants, sans exception, unis par les liens d'une vie nouvelle, à la tête, Christ, glorifié dans le ciel, sont membres de son corps. Vérité sur laquelle nous aurons certainement à revenir. L'Assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, selon Éphésiens 1. Où voir aujourd'hui cette Assemblée ? L'Église, quant à sa manifestation extérieure, est en ruine. Si elle ne l'était pas, tout entière, elle serait la manifestation de l'unité du corps. Or, ce n'est qu'au milieu de la ruine qu'il peut y avoir un témoignage, non seulement individuel, comme tout chrétien est appelé à le rendre pendant sa marche à travers le désert, mais également collectif, rendu à l'unité du corps, selon les pensées de Dieu et au travers duquel il peut être glorifié. Mais béni soit Dieu, il a suscité un tel témoignage dans les derniers temps, montrant à quelques-uns, souvent deux ou trois, dans divers lieux, sur quel terrain ils pouvaient se rassembler en dehors de toute dénomination, et ceci au nom du Seigneur Jésus, pour se souvenir de sa mort en participant à la scène et réaliser, en prenant place à sa table, la communion non seulement entre eux, mais avec tous les croyants du monde entier. C'est de ce témoignage que les frères de l'Assemblée qui se réunit à Valence ont désiré que nous soyons occupés en ce jour. En recherchant à travers la parole et en étant guidés par le Saint-Esprit, quelle est la pensée de Dieu à l'égard de la pratique du rassemblement. Ce sujet est important. On a rappelé dans une prière qu'il était fondamental pour la vie de l'Assemblée. Mais il est aussi délicat à traiter. Et nous désirons qu'il soit abordé dans un esprit de grâce, dans l'amour, dans l'humilité et avec le désir que l'enseignement donné produise une réelle édification pour chacun, fortifie nos liens comme cela a été également demandé dans nos prières. Peut-être pourrions-nous commencer notre étude en présentant ce qu'est le rassemblement sur le terrain de l'unité du corps, expression si communément et si fréquemment employée, mais dont le sens profond est souvent soit méconnu, soit peu compris.
Les frères qui nous ont enseigné dans les années précédentes ont fait passer, bien entendu, d'une façon particulière au début de ce siècle, et puis alors, ici à Valence, nous pensons avec une immense reconnaissance aux frères que nous avons eu le privilège d'entendre pendant de nombreuses années. Tous ces frères nous ont parlé d'une manière ou d'une autre du triste état dans lequel se trouvait l'assemblée à Corinthe. C'était un triste état, certainement. Et il a été donné à plusieurs de nous parler des différentes formes de mal qui caractérisaient les frères à Corinthe. Beaucoup d'entre eux, en tout cas. Forme morale essentiellement, mais forme doctrinale aussi. La première forme de mal citée par l'apôtre avait été renseignée par une sœur du nom de Chloé, et l'esprit de parti, de division au sein de l'assemblée. Ce qui caractérisait Corinthe. Et puis la dernière forme de mal qui est placée devant nous est une forme de mal doctrinale où on allait jusqu'à nier la résurrection du corps d'un croyant. L'apôtre montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une résurrection morale pour un croyant, mais qu'une résurrection aura lieu certainement si ce frère ou cette sœur dans la foi doit descendre dans la tombe, que certainement il y aura une résurrection physique, une résurrection du corps. Et parmi les autres formes de mal, il y avait celle-ci en rapport alors avec notre sujet. L'apôtre doit poser cette question au chapitre 11 de cette première épître aux Corinthiens, « Méprisez-vous l'assemblée de Dieu ?» C'est très grave, chers amis, de mépriser l'assemblée de Dieu. On peut aider l'assemblée, ça a été le sujet de nos diverses prières tout à l'heure, que nous soyons vraiment de ceux qui aiment l'assemblée. On peut mépriser l'assemblée, c'est très grave. On aime l'assemblée, alors cela réjouit le cœur de notre Seigneur. Et c'est un beau témoignage que l'on peut rendre à un frère qui arrive au terme de sa course, ou à une sœur qui arrive au terme de sa course, quand on peut dire d'eux, « Ah, c'est un frère qui vraiment a aimé l'assemblée. Cette sœur, elle a vraiment aimé l'assemblée. » C'est un très beau témoignage que celui qui peut être rendu ainsi, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, fidèles qui sont bons. Méprisez-vous l'assemblée de Dieu, il est donné alors à l'apôtre, depuis le chapitre 10 déjà, de parler de l'assemblée et d'une façon particulière de parler du corps de Christ. C'est tout grand sujet développé par l'apôtre dans les chapitres 10, 11, 12, 13 et 14. C'est le sujet de l'assemblée. Plus exactement, l'assemblée est réunie, d'où l'expression « quand vous êtes réunis en assemblée ». Ce n'est pas une réunion comme n'importe quelle réunion. La réunion d'assemblée est une réunion d'un caractère particulier, ordonnée par Dieu, où les frères, les sœurs dans la foi se rencontrent. Et cela autour du Seigneur lui-même. Mais il y a tout d'abord, avant l'énoncé de la vérité de base de la table du Seigneur, ce que notre frère a lu tout à l'heure, depuis le verset 14 au verset 22, il y a tout un contexte que l'apôtre Paul établit et que nous trouvons dans les versets 1 et 13 de ce chapitre 10. Il y a tout un contexte, un rappel de ce qu'a eu lieu en Israël, et l'apôtre doit dire, « Ah, vous jugez peut-être ce qui est arrivé parmi les enfants d'Israël. » C'est vrai, c'est loin d'être à la gloire de Jéhovah, mais n'oubliez pas que cela caractérise l'Église professante et la caractérisera toujours plus. Tout d'abord, l'apôtre insiste sur les privilèges que tous ont connus en Israël. On a été frappé par la fréquence de ce mot « tous » dans les premiers versets du chapitre 10. Il est dit au verset 10, « Nos pères ont tous été soignés, tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, tous ils ont mangé la même viande spirituelle, tous ils ont bu le même breuvage spirituel, ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. » Donc tous ont été les objets de dons particuliers de la part de l'Éternel. Ils ont connu la magnifique délivrance hors du pays d'Égypte, la magnifique conduite par l'Éternel lui-même du peuple tout au cours du désert, le don de la manne, le don de l'eau du rocher. Ils ont connu tous ces privilèges, tous, sans exception. Mais voilà qu'au verset 5, Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent dans le désert. Et alors les formes de mal sont mentionnées dans les versets qui suivent, à commencer par la convoitise, ensuite l'idolâtrie, ensuite la fornication, ensuite l'incrédulité, qui se manifeste par le fait qu'on tente Dieu, on met en doute sa puissance, est-ce que vraiment Dieu pourrait faire ceci et cela? C'est finalement ne pas croire en Dieu, ne pas croire en sa puissance, c'est tenter Dieu. Et enfin, une cinquième forme de mal, appelée les murmures, et leurs conséquences, la conséquence le sort des murmurateurs a été terrible, puisqu'il est dit au verset 10e, ne murmurez donc pas non plus comme quelques-uns ont murmuré et ont péri par le destructeur. Cela nous fait penser essentiellement à ce qui est arrivé lors de la terrible contradiction de Corée. Le peuple d'Israël a souvent murmuré. Et cela est spécialement dit dans le livre des Nombres, le livre de la marche dans le désert. Au chapitre 14e, pas moins de 5 fois, nous avons le verbe murmurer, murmurer, murmurer. Alors au chapitre 16, nous avons le terrible murmure de Corée, de sa petite cohorte, quand ils ont osé murmurer contre Moïse et contre Aaron, les hommes que Dieu avait établi en autorité en Israël. Et la conséquence de tel murmure a été terrible, il est dit, ils ont péri par le destructeur. Eh bien, ces différentes formes de malheur, donc la convoitise, l'idolâtrie, tout ce que nous venons de dire, tout cela, dit l'apôtre, se réalise dans l'église du professant, c'est-à-dire responsable, où l'on n'a plus que la forme de la piété, on ne réalise plus une vie réelle avec Dieu, mais cela se réalise, et c'est ce que l'apôtre veut dire à deux reprises, en nous disant au verset 6, ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne, dit l'apôtre. Vous parlez du peuple d'Israël, c'est juste de penser que cela concerne l'Église du professeur, afin que nous ne convoitions pas les choses mauvaises comme cela ont aussi convoité. Et puis au verset 11e, toutes ces choses leur arrivèrent comme suite, elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint, le temps, les différentes périodes de mise à l'épreuve de l'homme par Dieu, qui s'appellent les siècles. Eh bien voilà, Dieu a mis à l'épreuve l'homme, il a montré ce qu'est l'homme et ce que l'homme était capable, où la dernière épreuve a été celle, disons, du Fils de Dieu, et où l'homme a osé le rejeter, le mépriser, et même le faire mourir en la croix du calvaire. Alors, l'exhortation pour nous-mêmes, chers amis, que ce verset 12, que celui qui protège de nous prenne garde qu'il ne tombe. Nous devons faire attention de ne pas nous prévaloir de quoi que ce soit. On peut se prévaloir des privilèges immenses que Dieu nous donne. Prenez garde, faites bien attention que celui qui protège de vous prenne garde qu'il ne tombe. Mais aussi l'apôtre s'en réfère aussitôt à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, dit-il. Il ne permettra pas que soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il sera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Alors l'apôtre en arrive, en ce qui concerne notre sujet proprement dit, il en arrive au sujet de l'idolâtrie, pas tant le sujet de la convoitise, ou de la crédulité, ou les murmures, mais l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est l'idolâtrie. L'idolâtrie était un véritable fléau à Corinthe, et les chrétiens à Corinthe se laissaient encore plus ou moins influencer par de telles coutumes, les coutumes dites païennes. C'est pour cela que l'apôtre Paul, avec force, leur dit « Fuyez l'idolâtrie, je désire parler comme à des personnes intelligentes, qui entre dans la compréhension non pas de leurs propres pensées, mais des pensées de Dieu. Je parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même ce que je dis. Et alors, l'apôtre, on arrive à ce sujet fondamental de la table du Seigneur, où il y a la coupe qui se prend et le pain également qui est mangé. Tout d'abord, la coupe. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? La coupe est mentionnée d'abord, nous savons tous, dans ce passage, avant la mention du pain, la coupe, image du sang de Christ. En buvant à la coupe, nous exprimons la communion que nous avons au sang de Christ qui a été répandu. Il faut le sang de Christ pour que nous ayons accès à de tels privilèges, les privilèges mentionnés plus haut. Il faut nécessairement, d'une part, l'effusion du sang de Christ pour que nous soyons amenés à de tels privilèges, et d'autre part, pour que nous soyons à même de participer à la coupe du Seigneur. Un incrédule ne peut pas boire à la coupe, il ne peut pas manger le pain qui est là sur la table. Un incrédule ne peut pas. Il faut avoir la vie de Dieu pour ainsi boire à la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang du Christ? C'est ce que nous exprimons là. Les versets suivants vont nous parler de la table du Seigneur. À la table du Seigneur, nous exprimons cette communion que nous avons au sang de Christ qui a été répandu pour nous et qui nous a rendus capables de participer aux nombreux privilèges de la grâce de Dieu. La coupe de bénédiction que nous bénissons, de laquelle nous disons du bien, à propos de laquelle nous adorons, nous magnifions notre Dieu qui nous a donné un tel sauveur, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Et combien il est nécessaire que nous pensions à cela, et d'une façon particulière, dimanche après dimanche, quand nous participons effectivement à cette coupe du Seigneur, nous l'approchons de nos lèvres, nous y buvons, dimanche après dimanche, que le Seigneur nous garde des coutumes qui peuvent survenir, des habitudes que nous pouvons contracter même à cet égard, qui nous donne de réaliser chaque fois l'acte, la valeur de l'acte que nous accomplissons, tandis que nous vivons à la coupe, qui est la communion du sang du Christ.
L'apôtre, verset 13 de notre chapitre, s'est adressé à l'Église professante comme l'a indiqué notre frère, à profession chrétienne, à tous ceux qui ont été baptisés pour Christ, qui se réclament du nom du Seigneur. C'est le cercle qui dans le titre de Éphésiens, comme étant le cercle d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul baptême, ceux donc qui ont été baptisés pour Christ, comme Israël avait été baptisé pour Moïse. Et nous voyons qu'il y a là des gens convertis et des inconvertis. Mais ceux qui se réclament du nom du Seigneur sont placés sous la responsabilité d'écouter la parole et de croire. À partir du verset 14, alors ce sont ceux qui ont cru, ceux qui font partie du corps de Christ. Et cela jusqu'à la fin du chapitre 14e. L'apôtre, ainsi, nous fait pénétrer dans un cercle plus restreint, le cercle qui est inscrit dans les Éphésiens comme étant celui d'un seul corps et d'un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Un seul corps, formé par un seul esprit. C'est le cercle, donc, de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui appartiennent au Seigneur, qui sont au bénéfice de son sang versé, et qui ont donc droit à s'approcher de sa table pour participer au pain et à la coupe. C'est le corps de Christ. L'unité du corps de Christ n'est pas à faire, elle est faite par le Saint-Esprit lui-même. C'est le travail divin. C'est un travail opéré par Dieu lui-même, par son Esprit. Nous avons un verset capital à cet égard, au chapitre 12 et au verset 13,
Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Ainsi donc, c'est le travail de l'Esprit Saint dès le commencement, depuis qu'il est descendu, l'esprit dont nous avons été baptisés à la Pentecôte, cet esprit dont nous sommes abreuvés, cet esprit qui, ainsi joint au corps de Christ, jour après jour, les membres qui lui sont unis parce qu'ils sont convertis, parce qu'ils sont nés de nouveau, tous donc forment le corps de Christ, un seul corps. L'unité du corps de Christ n'est donc pas à rechercher, n'est pas à faire, elle est faite. Nous avons simplement à l'exprimer, à en rendre témoignage en face précisément de ces dénominations diverses, de ces systèmes divers qui parlent de leur Église, qui parlent de ce qu'ils font eux-mêmes, de la manière dont ils travaillent pour former ce corps. Il est formé, nous n'avons pas à le former, nous avons simplement à en exprimer la réalité et l'unité dans la participation au pain qui est sur la table. Et c'est là ce qui n'a pas été enseigné dès le commencement, au moment où le Seigneur a institué la scène, parce qu'il revenait à l'apôtre Paul d'enseigner cette vérité du corps de Christ. Et c'est pourquoi nous avons donc dans les versets que nous avons lus quelque chose de complémentaire en tant qu'enseignement. C'est en particulier ce verset 17, « Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. » C'est donc une vérité qui a été enseignée à l'apôtre Paul et par l'apôtre Paul à nous. C'est une vérité complémentaire qui n'a pas été, bien sûr, mise en évidence par le Seigneur lorsqu'il a institué la scène, parce qu'à ce moment-là, la vérité du corps de Christ n'avait pas été encore enseignée. Donc, lorsque nous avons sur la table du Seigneur un seul pain, nous y voyons tous les enfants de Dieu, sans exclusive, tous ceux qui lui appartiennent et qui sont représentés dans ce seul pain. Un seul pain, un seul corps. Voilà l'unité du corps de Christ exprimée ainsi. Et c'est la seule manière de l'exprimer, c'est la seule manière d'en témoigner dans ce monde, parce que nous voyons dans ce qui est visible que les divisions, que les schismes, mais nous pouvons, nous avons un endroit où nous pouvons témoigner de l'unité du corps de Christ, c'est à la table du Seigneur. Et c'est une vérité précieuse entre toutes que nous avons à garder, parce que c'est la base de notre rassemblement, c'est le terrain sur lequel la table du Seigneur est dressée, c'est ce terrain sur lequel il l'a dressée et à laquelle nous participons. Et c'est un témoignage que nous avons à rendre jusqu'à la venue du Seigneur.
Le sujet est introduit au verset 15 par les paroles de l'apôtre. Je parle comme à des personnes intelligentes. Tout au long de l'épître, il a posé cette question chaque fois qu'une vérité nouvelle était introduite. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Vous devriez savoir. Ici, il suppose, s'adressant à ses Corinthiens, que les vérités qu'il va leur présenter sont connues. Il les rappelle sans doute, comme nous le faisons aujourd'hui sur la base de ces passages. Mais nous avons à être intelligents, autrement dit, à savoir ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. Quelle est la portée de ces signes auxquels nous participons? Leur importance est telle que l'apôtre a devant lui, et nous avons bien aussi devant nous, que ce ne soit pas fait d'une manière rituelle, cérémonielle, simplement par tradition, mais que l'on comprenne ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Je parle comme à des personnes intelligentes. Dans Esdras, au chapitre 8, c'est une question d'homme intelligent, à la fin du verset 16, une liste de personnes rassemblées par cet homme de Dieu, et dont il nous est précisé que c'était des hommes intelligents.
à la fin du verset 18 qui suit, alors il y avait un homme intelligent, spécialement désigné. Et le verset 21 nous montre comment, et comment ce service commun qui va les conduire à Jérusalem, je publie un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants. Donc que l'intelligence conduit d'abord à s'humilier parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, et voilà, on comprend devant Dieu ce que l'on a mal fait, et on est invité à bien le faire, et demander le vrai chemin que Dieu peut nous montrer. Pour nous, pour nos enfants, précise ce passage. Il y a deux formes d'ignorance. Ignorance involontaire, parce qu'on n'a pas été instruit. C'est la part de d'innombrables croyants dans le monde christianisé. Il y a beaucoup de croyants dispersés qui simplement n'ont pas été instruits quant aux vérités de l'Assemblée. Le Seigneur ne leur demande pas plus que ce qu'ils ont reçu. Mais il y a l'ignorance volontaire. Et cela, c'est une ignorance coupable. Quand on a été instruit et qu'on ne met pas en pratique ce que l'on a entendu, eh bien, on est responsable devant Dieu de ce que l'on n'a pas fait du dépôt qui nous a été confié, des vérités placées entre nos mains. Nous sommes donc particulièrement responsables, et si nous revenons sur ces sujets, ils sont placés en particulier devant la jeunesse, c'est bien pour que nous ne soyons pas ignorants, mais que nous comprenions, pas avec la tête, pas simplement une doctrine, une vérité, mais que nous traduisions dans notre comportement et dans nos actes, voilà, que ce que nous faisons, nous sachions pourquoi nous le faisons, pourquoi nous ne faisons pas autrement, pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous ne sommes pas ailleurs. Il est donc essentiel, en introduisant ce sujet, de nous rappeler que nous avons à être intelligents.
En rapport avec la déclaration de l'apôtre, je parle comme à des personnes intelligentes. Est-ce que cela n'est pas aussi en rapport avec le fait que souvent l'apôtre avait posé cette question depuis le début de l'épître en disant « Ne savez-vous pas ?» Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous devriez savoir. « Ne savez-vous pas ?»« Ne savez-vous pas ?» Et dans le cadre d'un court chapitre, le chapitre 6e, dans le cadre de ce seul chapitre de 20 versets, pas moins de 6 fois, nous avons cette expression « Savez-vous pas ?»« Ne savez-vous pas ?» Vous devriez savoir, alors nous comprenons, semble-t-il, aisément cette déclaration de l'apôtre de notre chapitre. Je parle comme à des personnes intelligentes qui devraient savoir et connaître un peu davantage les pensées de Dieu. Je parle comme à des personnes intelligentes qui ont cette intelligence qui est donnée par l'Esprit de Dieu et grâce à laquelle nous entrons dans la compréhension des merveilleuses pensées de Dieu.
Et qui nous rend capable de juger nous-mêmes de ce qui nous est présenté. Et ça, c'est une chose importante et pour laquelle, dans le Nouveau Testament, qui explique pourquoi, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas des précisions que nous aimerions souvent avoir. Mais l'intelligence qui est donnée par le Saint-Esprit conduira le croyant dans un chemin, peut-être pas compris de tous, mais qui lui sera évident. Parce que justement, il aura cette intelligence renouvelée, cette intelligence spirituelle. Nous avons bien besoin de nous souvenir de cela. Nous ne cherchons pas des recettes, des lignes de conduite tracées d'avance. On a fait ça à la génération précédente, donc on va faire comme ça. Mais personne d'intelligente appelée à juger elle-même et à considérer à la lumière des Écritures et selon ce que l'Esprit place devant nous, si ce que nous faisons est selon le Seigneur ou pas.
C'est intéressant de voir l'intelligence dans le livre des Proverbes en particulier. L'intelligence est une capacité de distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Nous le disons aussi dans le livre de Job, Job 28:28, que se retirer du mal, c'est cela l'intelligence.
Il s'agit donc d'intelligence spirituelle.
comme l'Épître aux Colossiens nous précise. Et c'est le seul moyen de connaître la volonté de Dieu. Le seul moyen. Est-ce que nous voulons la connaître sur ce sujet précis qui est devant nous? Ou bien est-ce que simplement nous recevons un enseignement que nous enregistrons dans notre mémoire, que nous opérons un rite qui est une coutume parmi nous? Non. Il faut avoir saisi pour soi-même de ce qu'il s'agit. Il faut avoir assimilé pour soi-même tout ce que cela représente, tout ce que cela symbolise dans tous les détails. Et nous les verrons. Il y a plusieurs côtés, plusieurs manières de voir ce que l'Esprit Saint veut nous enseigner au sujet de la table du Seigneur et de la scène du Seigneur. Il faut le recevoir par une intelligence spirituelle. L'Épître aux Colossiens nous dit « Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Si nous avons saisi par ces choses, après les avoir jugées, après les avoir considérées, eh bien, nous les mettrons en pratique, c'est la volonté de Dieu, nous ne resterons pas en arrière, et nous saurons aussi ce que nous faisons et ce à quoi nous nous engageons. C'est un engagement aussi cela. Il y a donc plusieurs côtés qui nous seront ainsi, qui seront touchés en nous au fur et à mesure de la considération de ces passages. C'est d'abord ici l'intelligence spirituelle, pour savoir ce que l'Esprit Saint veut nous enseigner à travers des exemples qui ne sont plus de nos jours, à travers des pratiques idolâtres et païennes, qui n'ont plus cours parmi nous dans nos pays, heureusement. Mais c'est à travers ces exemples-là que l'apôtre veut nous enseigner, que l'Esprit Saint veut nous enseigner, pour nous faire considérer qu'à la lumière de ce qui se passait à cette époque-là, nous avons un enseignement actuel. Nous avons un enseignement d'une très grande profondeur et d'un très grand intérêt actuel. Et puis alors, dans le chapitre 11e, il y aura non seulement l'intelligence spirituelle, mais le cœur qui sera engagé. C'est une question de cœur de participer à la scène du Seigneur. Il y aura la conscience qui sera engagée, la conscience, dans la mesure où nous considérerons quelle est notre responsabilité de maintenir la table du Seigneur dans toute sa sainteté et de prendre la scène d'une manière digne de lui. La conscience, le cœur, l'intelligence.
Vous pourriez revenir brièvement sur ce qui a été touché tout à l'heure de l'enseignement d'Éphésiens 4 et des cercles qui nous sont présentés. Rappelons avant d'entrer plus profondément dans le sujet qui nous occupe que l'humanité entière, de la part de Dieu lui-même, et Dieu est présenté comme le Créateur, le Père de tous, cette humanité entière occupe le cercle extérieur. On entre dans ce cercle par la naissance, qui est la responsabilité des parents et un acte divin, parce que Dieu souffle dans l'enfant une respiration de vie. Au milieu de l'ensemble de l'humanité, Dieu distingue ceux qui font partie de la profession chrétienne. La porte d'entrée dans ce cercle intermédiaire est le baptême chrétien, le baptême d'eau. Nous qui avons la pensée de baptiser nos enfants, nous les plaçons dans l'exercice des parents sur ce terrain-là, à leur insu même, puisqu'ils sont généralement baptisés enfants sans avoir la connaissance des choses. Il y a à peu près 1 milliard de chrétiens extérieurs dans la profession chrétienne, 20-25% de la population du monde. Ceux-là, vis-à-vis de leurs responsabilités, sont jugés comme appartenant à la maison de Dieu sur la terre. Au sein de ce cercle intermédiaire, il y a le cercle intérieur. Si le cercle intermédiaire est caractérisé par le Seigneur et par le baptême, le cercle intérieur est caractérisé par le fait que le Saint-Esprit y habite, qu'il y a un seul esprit, un seul corps, et qu'il y a une seule espérance de l'appel. Au début du christianisme, lorsque l'Assemblée a été formée sur la terre, le cher jeune, soyez bien attentif à ceci, les deux cercles, intérieur et intermédiaire, étaient confondus. Il n'y avait point de différence. Tous ceux qui appartenaient au cercle intérieur étaient dans le cercle intermédiaire. Il n'y avait pas de ceux qui s'étaient plus tard infiltrés, dans l'expression de Jude. Pourquoi avons-nous lu tout à l'heure 2 Timothée 2 ? Pour essayer de nous y retrouver dans une confusion générale. Puisque maintenant, parmi ces milliards de chrétiens sur la terre, combien y en a-t-il qui ont la vie de Dieu, qui sont scellés de l'Esprit et qui sont donc placés dans ce cercle intérieur? C'est la grande différence entre la profession chrétienne et entre le corps de Christ. Dieu n'acceptons pas cette différence, mais constatons qu'elle existe, et ceux qui se sont placés dans la profession chrétienne sans la vie seront jugés comme tels. L'apôtre, dans l'épître aux Corinthiens, où pratiquement toutes les vérités de l'Assemblée sont développées, jusqu'au chapitre 9, verset 23 ou 24, parle de la maison de Dieu sur la terre. À partir du chapitre 10, verset 14, il parle du corps de Christ. Et entre les deux, c'est la profession chrétienne. La maison de Dieu sur la terre est une maison dans laquelle Dieu habite. C'est une maison qui est devenue une grande maison par suite de l'infidélité de ceux qui ont accepté que certains s'infiltrent et se placent cela sur terrain chrétien sans y appartenir. On entre dans le cercle intermédiaire par le baptême chrétien. On est ajouté dans le cercle intérieur, celui du corps, par la nouvelle naissance, c'est Jean 3. Par l'acte de Jean 6, de manger la chair de Christ et de boire son sang. Les deux choses sont vraies. À ceux-là qui sont dans le cercle intérieur, sont confiés les privilèges du corps. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Collectivement, au corps de Christ est confiée la table du Seigneur et la scène du Seigneur. La scène du Seigneur est le mémorial de la mort de Christ. C'est donc le symbole des choses dont Jean 6 nous présente la réalité. Vous entrez donc dans le cercle intérieur par l'acte de foi de manger le corps de Christ et de boire son sang. Jean 6 est donc le principe fondamental des choses et le symbole en est vu dans la scène. Alors, la chrétienté professante s'est souvent trompée et a pensé que le baptême chrétien était un moyen de salut. C'est totalement exclu. Pas plus que la scène ne peut l'être, puisque la scène est le symbole des choses qui sont vues dans le développement de la vérité de Jean 6. La scène, non seulement, est le symbole de souvenirs extrêmement précieux et solennels de la mort de Christ et de sa souffrance. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais en même temps, c'est l'enseignement de 1 Corinthiens 10. La scène du Seigneur est liée à la table du Seigneur. Et à la table, on participe à une nourriture en commun. Il y a d'un côté le côté de la communion et de l'autre côté l'identification de l'âme goûtée collectivement à la table du Seigneur avec le sacrifice de Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre prend deux exemples. L'exemple d'Israël sur la chair, nos frères l'ont déjà rappelé, et l'exemple de la table des démons. Il est bien évident qu'il n'y a plus de table des démons dans les pays d'Europe occidentale où, heureusement, on est au moins extérieurement dans une grande mesure débarrassé de l'idolâtrie. Ce que nous avons donc dans 1 Corinthiens 10, c'est la table, la communion, l'identification avec Christ dans le sacrifice et dans sa mort. La table et l'autel vont ensemble, comme il était autrefois pour le sacrifice de prospérité. En même temps, la scène du Seigneur est le mémorial de la mort de Christ. La scène du Seigneur est goûtée ensemble, collectivement, dans l'assemblée réunie au nom du Seigneur Jésus autour de lui. Et c'est la plus profonde et la plus précieuse des joies qui soient accordées au cœur du chrétien. En même temps, c'est un puissant appel à la séparation du mal, à la séparation du monde dans le cœur, et dans les voies et dans la marche. Mais 1 Corinthiens 10 ne peut être réalisé que collectivement, parce que c'est l'expression de l'unité du corps de Christ, il y a un seul pain, un seul corps. L'une des quatre grandes vérités de Paul dans la doctrine de Paul. L'une des quatre révélations que le Seigneur de la gloire a fait à son cher serviteur, qui n'avait pas eu l'honneur et le privilège d'être de ceux qui ont mangé et bu en sa présence. Il y a l'assemblée de Dieu, corps de Christ. Mon frère l'a rappelé, Éphésiens 1, 23. Par révélation, Éphésiens 3, la révélation de la pensée de Dieu à l'égard de Christ, c'est-à-dire le Seigneur et l'Église, a été donnée à Paul du haut de la gloire. La seconde révélation, c'est celle de la scène, qui est dans le seul pain le symbole de l'unité du corps de Christ. Les troisième et quatrième révélations les trouvent le retour du Seigneur 1 Thessaloniciens 4, la transmutation des saints vivants, et la première résurrection en 1 Corinthiens 15. Vous rechercherez les quatre passages dont nous parlons sont tous une expression d'une révélation particulière que Paul a reçue du Seigneur Jésus de la gloire.
ce qu'on a appelé la doctrine paulinienne ou la doctrine de Paul. Exactement ce que notre frère vient de dire concernant ces révélations exceptionnelles que l'apôtre Paul a reçues, et pas un autre apôtre, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, n'ont pas reçu de telles révélations. Et notre frère vient de parler de la scène. Je vous dis aussi ce que je vous ai enseigné, ce que j'ai reçu en rapport avec la scène. Comment par révélation j'ai appris ceci, que véritablement tous les croyants issus du judaïsme et issus du paganisme forment un seul corps, Éphésiens 3, par révélation. Et puis alors, la vérité du retour du Seigneur, il y a un passage que nous ne comprenons pas toujours très bien, que l'on entend expliquer quelquefois au bord d'une tombe, lors d'un ensevelissement. Voici, nous vous disons la parole du Seigneur. Quelle est cette parole du Seigneur? Donc, que notre frère vient de rappeler, la résurrection des saints endormis, la transmutation des saints encore en vie, c'est cela la parole du Seigneur. Alors, où est-ce qu'elle se trouve? C'est dans l'Ancien Testament? Pas du tout. Chacun vient d'accord que c'est pas dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Peut-être que les premières pages du premier évangile, c'est tout ce que l'apôtre Paul pouvait connaître d'écrit. Alors que veut dire cette parole? Nous vous disons par la parole du Seigneur, nous nous endormirons pas, etc. Eh bien, c'est l'apôtre qui vient dire, le Seigneur un jour m'a parlé. Il m'a parlé, il m'a révélé ceci, il m'a révélé une telle vérité concernant son prochain retour. Il m'a parlé. Alors maintenant, ce que le Seigneur m'a dit à moi-même, ce qu'il m'a révélé, ben, je vous le communique. Nous vous disons par la parole du Seigneur, à Thessaloniciens 4, ce qui arrivera concernant les saints endormis et les saints encore en vie, lorsque le Seigneur Jésus viendra. Un ensemble de révélations, nous sommes extrêmement reconnaissants de penser que de telles vérités nous sont rappelées maintenant. Elles sont merveilleuses. Ces révélations faites à l'apôtre Paul, à lui et non pas à un autre apôtre, est ce qu'on a appelé l'ensemble de ces révélations la doctrine de Paul ou la doctrine paulinienne. Nous le répétons volontairement, le sujet d'un traité qui mériterait toute notre attention.
Deux points. Le premier à propos de la doctrine de Paul, pour préciser qu'elle se trouve dans le message évangélique de 1894. Il a le tiré à part, mais il y a aussi l'article original qui est apparu en plusieurs articles dans l'année 1894, avec également un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est la venue du Seigneur et ses conséquences pratiques, en 13 articles, donc en 1894. Deuxième point, pratiquement, de nos jours, où est la table du Seigneur? Comment reconnaître la table du Seigneur? Dans quel secteur de la chrétienté se trouve la table du Seigneur? Nous venons d'entendre qu'elle est liée à la scène du Seigneur. Elle est liée à la présence du Seigneur. Et il y a donc quatre choses qui sont étroitement liées l'une à l'autre. La présence du Seigneur, l'autorité du Seigneur, la table du Seigneur et la scène du Seigneur. Ce n'est pas, chers jeunes croyants, qui vous posez des questions à ce sujet-là, à cause essentiellement du caractère des croyants qui se trouvent ici ou là, que vous reconnaîtrez la table du Seigneur et la présence du Seigneur. La présence du Seigneur et le fait d'être assemblé à son nom. Si des croyants se groupent volontairement, ils se trouvent rassemblés eux-mêmes sur un terrain qu'ils ont choisi volontairement. Un terrain, c'est-à-dire un fondement, c'est-à-dire un principe. Ça peut être une doctrine préférée. ça peut être aussi un ministre préféré. Et déjà, à Corinthe, justement, il y avait des préférences. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Il peut y avoir des croyants qui se groupent volontairement parce qu'ils ont un programme, parce qu'ils ont un objectif à réaliser. On peut penser à bien des choses à ce sujet-là. Mais ce groupement volontaire n'est pas le fait d'être assemblé passivement par le Seigneur lui-même. Être assemblé au nom du Seigneur, c'est être attiré par Christ. On cite volontiers l'exemple, l'image d'un aimant et de la limaille. La limaille de fer est sur une table. Si on place un aimant, la limaille va vers l'aimant. Et nécessairement, alors, l'aimant est au milieu de la limaille. Il convient de bien savoir que le Seigneur Jésus ne vient pas après que les croyants se sont rassemblés, comme s'il venait en quelque sorte donner la caution de sa présence à des croyants, sincères peut-être, mais qui ont désir de manifester tel ou tel caractère et d'être d'accord sur un ensemble de points et sur des objectifs à réaliser. Non, d'abord le Seigneur est là et il nous assemble, lui. C'est un assemblement passif, qui n'a rien à voir avec la volonté de l'homme, même de croyants bien intentionnés. Donc, là où se trouve le Seigneur, il y a sa table. Si les jeunes croyants désirent chercher la table du Seigneur, alors qu'ils cherchent non pas la figure, le visage qu'ont les croyants, mais qu'ils cherchent le principe fondamental de tel et tel rassemblement. S'ils voient que le principe fondamental, et c'est ce qui a été dit tout à fait au début de cette réunion, s'ils voient que ce principe fondamental, c'est l'unité du corps, à savoir que c'est Christ qui a assemblé, et que c'est Christ qui est reconnu comme étant le fondement, le roc inébranlable sur lequel lui bâtit son assemblée, eh bien, ce croyant, ce jeune croyant qui se pose des questions au sujet de la table du Seigneur peut se dire qu'effectivement, là se trouve le Seigneur. Et là se trouve la table du Seigneur. Et là se trouve son autorité reconnue. Et là, sur la table, il y a la scène et le mémorial. Ce ne sont pas des caractères moraux qui peuvent attirer les uns ou les autres. C'est la présence du Seigneur effectivement reconnu et proclamé à la table du Seigneur. Le fondement, c'est l'unité de son corps, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est cela qui attire. Et nous reconnaissons dans la chrétienté des groupes de croyants exprimant devant Dieu ce qu'est l'assemblée corps de Christ sur la terre, s'ils sont assemblés véritablement par Jésus, s'ils sont assemblés en son nom. Et là se trouve cette table, la table du Seigneur. Peut-être que dans d'autres groupes de croyants, on va dire, mais nous confessons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, et puis nous avons la scène, nous avons une table. Oui, mais cherchons quel est le principe fondamental par lequel et sur la base duquel ils sont assemblés. Dès qu'il y a une doctrine préférée, un ministre préféré, c'est une secte. Dès qu'il y a une institution humaine qui se substitue à l'autorité du Seigneur ou qui constitue un intermédiaire, un écran entre les croyants assemblés et le Seigneur lui-même, on n'est pas sur le terrain que nous venons de rappeler. Le terrain, l'unité du corps et le terrain du témoignage, de la présence, de l'autorité, de la table et de la scène.
Ce qui vient d'être dit est confirmé par des passages de l'Écriture. Tout d'abord, ce verset bien connu de Matthieu 18, 20, où nous avons une septuple bénédiction. Un lieu, un témoignage, un rassemblement où on est assemblé au nom du Seigneur, un nom, une personne, une présence divine, un centre divin. Je suis là au milieu d'eux. Donc, présence du Seigneur, autorité du Seigneur, auquel s'ajoute la libre action de l'Esprit. Dès que nous donnons au Saint-Esprit la place qu'il doit avoir, eh bien, c'est lui qui va être le directeur, qui va conduire. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de ces trois cercles d'unité, dans Éphésiens 4, nous avons cette exhortation essentielle, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est ainsi que les frères peuvent habiter unis ensemble, parce qu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit, ce qui suppose que la chair a été jugée et qu'elle l'est en permanence, et que le monde, avec son esprit, les choses qui sont dans le monde, n'exercent pas d'influence au milieu de tels croyants. Ils sont deux ou trois, peu importe le nombre. Ce qui compte, c'est qu'ils soient assemblés au nom du Seigneur, réalisant que sa présence est le bien suprême, et qu'il remplit tous les cœurs, un peu comme nous le voyons dans la première réunion après la résurrection du Seigneur. Lorsque ses disciples sont dans la chambre haute, eh bien, ils se réjouirent quand ils virent le Seigneur qui les accueille avec ses mots, cette expression « paix vous soit ». Un autre point qui est très important aussi pour un rassemblement selon l'Écriture, c'est l'autorité de la parole. C'est la parole qui règle tout lorsqu'elle est communiquée par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit agit en nous pour nous faire saisir la pensée de Dieu relativement à ce point si important qu'est la table du Seigneur. Mais alors, de tels ont aussi un exercice personnel pour réaliser une telle bénédiction. Et c'est ce que nous avons dans 2 Timothée 2, à savoir que il se retire de l'iniquité. L'iniquité, c'est tout ce qui s'éloigne, tout ce qui s'écarte de la vérité, comme cela est dit à propos d'Hyménée et de Philette. Ensuite, il se purifie de ses vases à déshonneur pour être un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Il fuit les convoitises et ils évitent les questions folles et insensées. Et en même temps, il découvre que d'autres croyants ont les mêmes sentiments donnés par le Saint-Esprit, et alors ils poursuivent ensemble la justice, la foi, l'amour, la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et nous voyons la nécessité de cette exhortation qui est placée devant nous en 1 Corinthiens 10, 14, à savoir qu'il faut fuir l'idolâtrie, car l'idolâtrie c'est tout ce qui prend la place de Christ dans le cœur. C'est aussi tout ce qui empêche un incrédule de croire et qui empêche un croyant d'être fidèle. Tous ces objets qui ne sont pas Christ et qui captivent nos cœurs, combien nous avons besoin d'être gardés afin que la communion soit réalisée à la table du Seigneur. Communion avec le Père, avec Dieu, certainement avec le Fils, mais aussi les uns avec les autres. Et c'est ainsi que aussi, l'Esprit est engagé sous la direction de l'Esprit qui communique les pensées de Dieu à nos propres esprits pour que nous n'attendions pas que tous comprennent cette vérité si précieuse qui nous est encore conservée par pure grâce. Mais nous nous engageons ayant compris la pensée du Seigneur et réalisant que cette pensée est prioritaire. Alors, cette unité visible du corps de Christ, elle a eu lieu une fois sur la terre. Ça n'a pas duré très longtemps, mais nous voyons en acte 2 comment elle était réalisée. Il nous est dit au verset 42 qu'il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Donc la doctrine est prioritaire, l'enseignement que communiquaient oralement les apôtres à l'époque. Et maintenant, nous avons tout cela consigné dans la parole de Dieu, ces saintes vérités, et nous avons ainsi communion avec ce que les apôtres nous enseignent. Ne croyons pas que la vérité divine est susceptible d'un développement, comme on l'entend dire dans la chrétienté aujourd'hui. Nous avons tout simplement à revenir à ce qui est dès le commencement. Ne rien ajouter, ne rien retrancher à la vérité. Et ainsi nous sommes gardés de tout sectarisme, où la pensée de l'homme, l'opinion des hommes prévaut, Il y a le moi, je pense que, au lieu de se référer simplement, ayant nos cœurs centrés sur la pensée de Christ, à ce que la parole nous enseigne. Alors, la fraction du pain était aussi célébrée selon la pensée de Dieu. La vérité n'avait pas été encore communiquée à Paul, mais le fait était là, très sensible à tous ceux qui voyaient de tels croyants. Pour eux, la fraction du pain présentait toute son importance. Et puis, la vie de prière indispensable pour que nos relations avec Dieu soient entretenues constamment. Et nous voyons que cette unité visible a été très vite perdue de vue. Pourtant, elle subsiste aux yeux de Dieu. Elle ne peut être touchée par la ruine de l'homme. Mais c'est l'unité de l'esprit qui doit être gardée et qui est la réalisation pratique de l'unité du corps. Comme l'expression publique de l'unité du corps de Christ, nous l'avons dans la table du Seigneur lorsque nous célébrons la scène du Seigneur. Eh bien, nous voyons que en acte 5, en acte 6, il y a eu des troubles qui sont survenus et il y a eu un trouble concernant cette unité de l'esprit. Sans doute, il y avait là des cœurs très engagés et immédiatement, ces troubles ont été enrayés par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous savons à quel prix. Il y a un homme et une femme qui tombent morts sous le gouvernement de Dieu. Cela ne portait pas atteinte à la vie divine qu'il pouvait posséder, mais le gouvernement de Dieu était tel que le mal a été enrayé immédiatement. De même, en acte 6, à propos des biens matériels, et nous savons combien de souffrances ont été la part de l'Église à propos des biens matériels, nous voyons que les veuves des hellénistes étaient négligées. Et il y est remédié de manière prompte par les apôtres eux-mêmes, conscients du danger qui menaçait l'Église. Mais alors, cette table du Seigneur, eh bien, peut encore être réalisée lorsque nous comptons sur les ressources divines et que nous nous attachons à la pensée de Dieu dans la parole.
Justement, à propos de ce sujet de l'obéissance à la parole et du passage de 2 Timothée 2 qui a été évoqué, nous savons bien qu'il y a des questions et des exercices, des questions que se posent des jeunes croyants, et des exercices au sujet de cette expression « se retirer de l'iniquité ». Il y a 2 mots dans la parole qui ont été traduits par « iniquité ». C'est « adikia » et « anomia ». Ces 2 mots se trouvent en particulier dans le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. « Anomia », c'est la caractéristique de l'Antichrist, le fils de perdition, c'est l'inique. C'est en quelque sorte, pour résumer le sens de ce mot,
ce qui est hors la loi. Alors que Adikia, qui est le mot employé dans 2 Timothée 2, c'est le délit, justement c'est une désobéissance. Et dans ce passage, il n'est pas dit que nous nous retirions des iniquités. Parce que tel et tel croyant et tel groupe de croyants peuvent être caractérisés, nous le sommes tous, des désobéissants. Combien d'écarts, combien de manquements à l'autorité de la parole d'une manière pratique. Mais le singulier est important. Parce qu'il signifie pour nous que la désobéissance à la parole fait partie des principes, du principe de tel ou tel groupe de croyants. L'autorité de la parole n'est pas reconnue. Voilà en fait ce qu'est cette iniquité dont nous avons à nous retirer. La désobéissance à la parole faisant partie du principe de groupement de tel ou tel secteur de la chrétienté. Nous nous retirons de ce refus d'obéir à la parole, plus ou moins conscient, peut-être dû à l'ignorance, mais c'est cela dont nous avons à nous retirer de l'iniquité, adikia, qui est la désobéissance, ne reconnaît pas l'autorité de cette parole comme cela vient d'être mentionné. Nous avons évoqué le corps de Christ, qui est lié intimement au sujet donc de la table du Seigneur. Chacun a sans doute été très frappé de constater que Saul de Tarse, arrêté sur le chemin de Damas, a dû apprendre à l'ouïe de la voix que de celui qu'il croyait mort, que Christ et les siens ne font qu'un. Et cette unité indivisible de Christ et des croyants constituera, comme on l'a déjà évoqué, l'un des grands enseignements de l'apôtre, puisqu'il est le seul à développer ce thème du corps de Christ dans ses épîtres. Qui fait partie du corps de Christ, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont passé par ce travail de conscience et de cœur et qui ayant reconnu leur état de péché devant Dieu, ont reçu Christ comme sauveur personnel. Ainsi donc, tous les croyants, quel que soit leur niveau de compréhension, de connaissance, ils font partie de la famille de Dieu, la famille du Père, de laquelle le Seigneur est le premier-né, ils font partie de l'assemblée de Dieu et du corps de Christ. Nous ne voyons pas dans l'Écriture qu'une assemblée locale soit un membre du corps de Christ, puisque 1 Corinthiens 12 établit clairement qu'il s'agit de corps individuels. La beauté de l'existence et sa réalité, la réalité de l'existence du corps de Christ, sont des choses inaltérables. Ce corps de Christ a été suscité le jour de la Pentecôte. C'est un des résultats glorieux de l'œuvre de Christ qui avait pour but de rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Et il n'y a pas de division dans le corps aux yeux de Dieu, de telle manière qu'en dépit du déchirement et du fractionnement extérieur de cet organisme divin qu'est le corps de Christ, nous pouvons avec louange chanter que l'unité de ton Église est belle. L'unité du corps de Christ, grâce à Dieu, ne repose pas sur la compréhension que nous en avons, sur la mesure dans laquelle nous remplissons individuellement nos fonctions dans ce corps, elle repose sur l'œuvre de Christ de telle manière que nous pouvons, avec reconnaissance et louange, en proclamer la réalité. Et s'il est un lieu, s'il est un moment où cette proclamation de la beauté du corps de Christ est rendue, c'est précisément à l'heure de culte, lorsque rassemblés autour du Seigneur, à la vue d'un seul pain, nous annonçons la réalité inaltérable et belle aux yeux de Dieu en Christ, de ce corps de Christ. Tout croyant a donc lié l'un à l'autre et tous les rachetés du Seigneur sont liés les uns aux autres par un lien vital, un lien indestructible. C'est ce que nous proclamons à la table du Seigneur. Mais il convient de distinguer soigneusement la réalité du corps de Christ dont nous proclamons l'existence chaque premier jour de la semaine avec la communion des croyants les uns aux autres, les uns avec les autres, à la table du Seigneur. Ce sont deux choses distinctes. Le lien vital existe, nous le réalisons à la rencontre de chaque croyant et nous aurons l'heureux partage d'être tous ensemble, passant l'éternité dans la maison du Père. Néanmoins, pendant le temps de notre responsabilité, cheminant sur la terre, temps pendant lequel nous avons un témoignage à rendre, il importe de connaître la pensée du Seigneur en rapport avec la communion qui peut être réalisée à sa table, dans sa maison, dans son assemblée. Et la communion à la table du Seigneur est sans doute le niveau le plus excellent et le plus élevé de cette communion que les croyants peuvent réaliser les uns avec les autres. Participer à la table du Seigneur est un acte d'amour de la part d'un racheté de Christ, répondant par cela à ce qu'il lui demande. C'est aussi un acte d'obéissance, puisque le Seigneur nous dit « Faites ceci ». Nous répondons donc en nous approchant de la table du Seigneur et en participant au mémorial de son œuvre à ce qu'il attend des siens. Mais c'est aussi un acte par lequel, nous approchant de sa table, nous reconnaissons les droits du Seigneur dans sa maison et souscrivons de cœur au caractère d'un témoignage correspondant à sa pensée, aux enseignements des Écritures. Peut-être est-il utile, sans nous allonger sur ce sujet-là, d'évoquer quelques points d'un quelque caractère de témoignage collectif requis des croyants rassemblés
Il y a bien sûr le culte rendu en esprit et en vérité. Il y a la conscience de la mission qui est requise de son assemblée ici-bas, à savoir, comme on l'a déjà vu au début de cette heure, colonne et soutien de la vérité. Il y a également la conscience des droits du Seigneur sur nous et des droits du Seigneur dans sa maison, car nous ne sommes pas chez nous, nous ne sommes pas dans la maison des frères et sœurs, nous ne sommes pas à la table des frères, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous sommes à la table du Seigneur de telle manière que nous avons à humblement nous incliner avec reconnaissance et fidélité devant les saints droits de la Seigneurie de Christ dans sa maison. On vient d'évoquer également l'autorité de sa parole qui écarte tout raisonnement humain, mais qui s'adresse au cœur, à la conscience et à l'intelligence purifiée, que Pierre se plaît à rappeler en écrivant son épître. Il y a également comme caractère d'un témoignage collectif la conscience que l'unique puissance et l'unique direction qui puisse agir dans le rassemblement, c'est celle du Saint-Esprit, ce qui écarte nécessairement toute organisation humaine. Un autre caractère encore est la sainteté pratique. Si nous proclamons que le Seigneur est mort à cause du péché, si nous annonçons qu'il a des droits en sainteté, en justice, aussi bien qu'en grâce et en amour, dans sa maison, le péché donc doit être ôté. Le sentiment de la sainteté pratique, qui doit résulter de la sainteté de tout croyant quant à sa position en Christ devant Dieu, doit être présente dans le cœur du racheté qui s'approche de la table du Seigneur. Et nous avons également à réaliser qu'à la table du Seigneur et dans sa maison, sa gloire est engagée. Le nom du Seigneur est un nom glorieux et la gloire du Seigneur est liée à sa maison. Nous le voyons du reste dans les différentes réalisations de l'habitation de Dieu avec l'homme, la gloire divine est présente. Nous aimons à dire, à proclamer, et veuille, Dieu veuille que ce soit une réalité dans chacun de nos cœurs, que nous nous rassemblons au nom du Seigneur. Peut-être proclamons-nous ou disons-nous ces paroles avec une certaine accoutumance sans nécessairement mesurer ce que représente et requiert sur l'âme d'un fidèle ou sur le cœur d'un racheté du Seigneur cette évocation du nom du Seigneur. Agir au nom de quelqu'un, c'est nécessairement avoir le sentiment de la crainte de ce qui lui revient et le sentiment de ses droits que nous avons à respecter. Nous agissons et nous nous réunissons au saint et glorieux nom du Seigneur, de celui qui est la tête du corps, qui est le maître de la maison et le Seigneur de son assemblée. La réalité de l'unité du corps, de l'existence de la famille de Dieu, de l'assemblée de Dieu, est une chose glorieuse. Et nous avons à voir toujours ces résultats merveilleux de l'œuvre de Christ selon ce qu'ils sont par lui et en lui. Un autre aspect est bien sûr celui de la responsabilité qui peut conduire à des séparations entre croyants qui sont toujours et doivent être douloureuses. Et s'il y a un désir dans le cœur du racheté de marcher dans un chemin d'humble obéissance au Seigneur, de fidélité qui ne lui permettra pas de marcher avec un autre croyant, qu'il soit gardé alors de tout sentiment de jugement et de tout sentiment de supériorité dans la conscience que ce que le Seigneur lui accorde de saisir de ses pensées n'est qu'un fruit de sa grâce.
Arrivant au terme de notre réunion de ce matin, nous concluons dans un sens de simplicité en rappelant la parole de nos frères d'autrefois qui avaient venu à Valence sur le plateau en disant ceci concernant la scène. Il s'adressait surtout aux jeunes pour que cela s'imprime bien, pas seulement dans leur mémoire mais sur la tablette de leur cœur. La scène est représenté par quatre concepts. La scène, c'est d'abord une expression 1 Corinthiens 10, une expression, l'expression de l'unité, de la communion au sein et au corps de Christ, comme nos frères viennent de l'exposer. Une expression, 1 Corinthiens 10, puis un mémorial, 1 Corinthiens 11, et nous pensons qu'il nous sera donné de parler d'un tel sujet durant cet après-midi, si le Seigneur nous l'accorde. Et puis, un témoignage. En rompant le pain, en buvant à la coupe, nous rendons témoignage au fait que le Seigneur Jésus vient. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez à la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et enfin, quatrièmement, une exhortation, convient solennelle, un appel au jugement de nous-mêmes, selon les derniers versets que notre frère a lus au début de la réunion. Nous avons là ce jugement de nous-mêmes que nous avons réalisé, et alors, une fois qu'il est réalisé, sous le regard de Dieu, la conclusion, quelle est-elle? Oh, j'ai fait tant de choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur, dans la semaine écoulée, par exemple, soit quant à mes actes, quant à ma marche, quant à mes paroles, quant à mes pensées, est-ce que vraiment je peux venir rompre le pain? Ah, la parole de Dieu nous donne tout de suite la réponse. Qu'il s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange. Ayant réalisé ce jugement nous-mêmes, nous avons toute liberté pour participer à la fraction du pain. Souvenons-nous donc cela, nous nous adressons à nos chers jeunes d'une façon bien particulière maintenant. Jeunes gens, jeunes filles, spécialement ceux qui, dans cette grande assistance, éprouvent le désir de répondre au désir du Seigneur. Ils n'ont pas encore fait jusqu'à maintenant, mais ils en ont le désir. Eh bien, la scène, c'est cela, expression de l'unité des enfants de Dieu, corps de Christ, 1 Corinthiens 10, mémorial et de la souffrance et de la mort de notre Seigneur, 1 Corinthiens 11, et puis un témoignage rendu au prochain retour du Seigneur, 1 Corinthiens 11, et finalement un appel, une exhortation à nous juger nous-mêmes. C'est cela, l'enseignement de la scène. D'autre part, en rapport avec la scène, la parole de Dieu nous parle de trois grands faits. D'une part, l'institution de la scène par le Seigneur Jésus lui-même, fin des évangiles synoptiques. Deuxièmement, l'occasion d'une célébration de la scène en Troade avec l'apôtre Paul, acte 20. Et troisièmement, alors, toute la doctrine, tout l'enseignement de la scène selon 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11. Une institution par le Seigneur lui-même, une célébration par les premiers croyants avec l'apôtre Paul, et enfin, un enseignement ou une doctrine. Voilà ce dont la parole de Dieu nous entretient concernant la scène du Seigneur.
Nous voudrions dire un mot sur les termes qui sont employés dans ces versets 16, 17 et par la suite. Nous trouvons plusieurs fois le mot « communion ». C'est une pensée très forte d'avoir en commun et d'une étroite association ainsi, ceux qui ont cette chose en commun. Avec ce qui en est l'objet, le centre, nous avons communion, c'est la communion du sang du Christ, la communion du corps du Christ, d'un côté, et également les uns avec les autres, puisque c'est en commun. Cette expression doit être distinguée de celle qu'on trouve ailleurs, un peu plus loin, participer à. Là, c'est l'acte, on pourrait dire extérieur, de prendre part à. Quand nous participons à la scène, à la coupe, au pain, c'est l'acte qu'on hésite à qualifier simplement de matériel, parce qu'il y a un côté spirituel, bien sûr, mais c'est le fait même à distinguer effectivement de cette pensée d'une association intime qui existe entre ceux qui ont communion ensemble et puis ce qui est l'objet de cette communion. Ceux qui désirent approfondir ce sujet pourront aussi considérer les notes qui se trouvent à ce sujet dans la chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. où l'expression « les enfants ont eu part au sang et à la chair », c'est le même pensée que la pensée de la communion, le même mot, alors qu'au sujet de Christ, il est dit qu'il a participé. Lui aussi y a participé. Lorsque, venant dans le monde, entrant, prenant un corps, il y a alors participé. Et ceci a de grandes conséquences. On a souligné de bien des manières déjà combien Christ est au centre. Le Seigneur Jésus lui-même est au centre de tout. En particulier dans ces expressions qu'on a rappelées dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis là au milieu d'eux. On a déjà fait remarquer, non pas là où deux ou trois ou quelques-uns se rassemblent dans tel ou tel but, mais sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et nous voyons dans le chapitre, dans le verset 17, alors, car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même. Il y a le côté, finalement, de la participation qui est un côté extérieur, mais il y a ce que, la réalité, nous sommes, cela a trait justement à cette communion en Christ et les uns avec les autres. Quelque chose qui ne dépend pas de ce que nous faisons, mais c'est la réalité divine et qui est exprimée alors là par le fait de participer à la scène, au pain et au vin. Et nous voyons justement ce que comporte cette participation. C'est l'expression de cette unité. C'est sur la base de ce verset, tout spécialement, tout ce qu'elle comporte, que repose cette, disons qu'il y a l'expression de l'unité du corps, et que nous trouvons en même temps, on l'a souligné aussi, le principe même du rassemblement. Quand nous disons que nous sommes ou désirons réaliser ce qu'est le rassemblement sur le principe, sur le terrain de l'unité du corps, puisque la question a été posée. Il n'est pas inutile peut-être d'y insister un peu. Il y a deux manières d'aborder le sujet du rassemblement. Il y a le côté de Dieu. On a donné l'image tout à l'heure avec l'aimant et la limaille qui est attirée par l'aimant et qui réalise ce rassemblement autour de l'aimant. Christ est au centre, c'est lui qui bâtit l'assemblée, c'est lui qui rassemble les siens autour de lui. Et ceux qui sont rassemblés ainsi n'ont pas du tout la pensée de faire quelque chose ou d'avoir un dessein particulier. Ils sont là parce que Christ assemble les siens autour de lui. Il y a un autre côté, une autre façon, c'est de partir du côté, n'hésitons pas à le dire, du côté de l'homme. Il y a des croyants qui ont cru, ils ont la foi, ils ont reçu la nouvelle naissance, ils connaissent Jésus comme leur sauveur et ils désirent, parce qu'ils ont en commun telle ou telle pensée, tel ou tel dessein, se grouper. Et ils forment, on parle beaucoup dans le temps actuel de communauté. Effectivement, forme un groupe qui peut avoir d'excellents buts, mais quel que soit le but qui soit proposé, quelle que soit la confession de foi, quel que soit le programme, comme on l'a dit tout à l'heure, cela ne peut pas être le rassemblement au nom du Seigneur Jésus. C'est une communauté chrétienne, oui, mais ce n'est pas être assemblé au nom du Seigneur Jésus et autour de lui, exprimant cette unité du corps qui existe et qui ne peut pas être touchée. Au contraire, le fait de constituer une communauté qui a ses particularités, avec sa confession de foi particulière, voire son nom, crée une division qui contredit justement la vérité de l'unité du corps de Christ. Et c'est pourquoi la chose n'est pas du tout légère, n'est pas du tout indifférente. Mais c'est une chose, au contraire, d'une très grande gravité, sur laquelle notre attention doit être effectivement attiré. Si nous regardons dans le dictionnaire le sens qui est même donné par les hommes à ces deux mots, le mot communion d'un côté et puis le mot communauté de l'autre, eh bien nous verrons quelle différence très grande il y a. Dans un, il y a justement un centre ou un chef, notre chef c'est Christ, dans l'autre c'est une communauté d'intérêts, des intérêts qui sont mis en commun. Puissions-nous nous laisser effectivement pénétrer profondément du fait que rien ne vient de nous. Et c'est toujours un terrain extrêmement dangereux lorsque nous mettons en avant ce que nous pouvons rechercher, même de meilleur, en unissant nos forces, alors que tout nous vient d'en haut. Nous souvenons de ce qui est dit justement au sujet du tabernacle. Il est question des ais qui sont des figures des croyants tenus debout. Par la grâce, ils étaient fermement liés ensemble par le haut.
J'ajoute justement ce qui vient d'être dit, que c'est extrêmement fondamental pour comprendre pratiquement ceux des croyants qui peuvent se trouver à la table du Seigneur et ceux pour lesquels une pleine communion, cette participation ne peut être réalisée. Il est certain que si des croyants se trouvent dans des communautés, comme on vient de le rappeler, n'étant pas assemblés au nom du Seigneur, n'étant pas sur ce terrain-là l'expression du corps du temps tout entier, n'étant pas réunis sur le terrain de l'unité du corps, eh bien, de tels croyants ne peuvent pas réaliser pratiquement une communion avec ceux qui sont assemblés par Christ sur le terrain qui vient d'être appelé. J'anticipe peut-être sur un autre sujet, mais les deux sont liés l'un à l'autre, ce qu'on appelle l'admission à la table du Seigneur, et ces deux principes de rassemblement.